Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Suzanne, président du comité scientifique des Amis du Perche. Il va évoquer pour nous, à travers le cahier Percheron numéro 214, la Grande Guerre, le Perche en 1918. Jean-François Suzanne, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, j'aimerais bien que vous nous fassiez une sorte de photographie du Perche au 11 novembre 1918, puisque c'est de ça qu'il s'agissait pendant ce colloque.
Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle est la situation française, locale et internationale dans lesquelles les percherons sont impliqués?
Oui, ça c'est une question très intéressante, parce que on sait que les percherons se sont beaucoup investis, donc c'est bien que vous puissiez nous en parler.
Oui, surtout qu'à ce 11 novembre, il faut rappeler que plus de 5500 percherons sont morts sur les fronts de bataille entre 1914 et voire jusqu'en 1919, puisque je rappelle que les percherons vont mettre du temps à revenir. C'est pas parce que le 11 novembre signe la fin des combats, oui, que c'est la fin de la guerre.
Oui.
Deux choses différentes. L'armistice, c'est la fin des combats d'un point de vue militaire, alors que le traité de paix va signer la fin des combats, la fin de la guerre d'un point de vue politique.
Exactement.
Et Clémenceau va utiliser en fait les soldats qui vont rester sur tout le front, sur les différents fronts, que ce soit le front de l'Ouest, c'est-à-dire entre la frontière franco-allemande, le front du Sud, notamment du côté de la Serbie, ou encore du côté de Salonique, mais aussi, on oublie souvent, c'est le front oriental, du côté en fait de la Palestine, pour pouvoir imposer ces traités de paix aux vaincus, et notamment à l'Allemagne, qui fera plus tard, qu'on appellera le fameux diktat, perçu par les Allemands comme étant négatif.
Oui, Patrick Hoguet, d'ailleurs, en a parlé dans le colloque.
Tout à fait.
Il a écrit un livre sur le sujet,
qui avait été édité par les Amis du Perche, voici maintenant 2 ans,
oui.
1914-1918, les militaires et l'autorité politique durant cette Grande Guerre.
C'est ça.
Alors, deux visions globalement.
Oui, deux visions, oui.
On commence sur les fronts extérieurs. On peut dire par exemple le 103e régiment d'infanterie qui se situe à Alençon pour le Perche-Ornais. Eux, durant les derniers mois de 1918, ils se battent dans la bataille des Flandres, donc dans le nord du pays. Ils vont participer aussi à la deuxième bataille de la Marne, qui est un moment difficile pour l'état-major français, puisque je rappelle qu'on est aux portes de Paris. Ils ont déjà connu la première bataille en septembre 14, et là, rebelote. Et c'est presque à ce moment-là, au mois de juillet, que la situation va s'inverser. On rappelle qu'aussi, depuis quelques mois, on a une présence américaine qui est arrivée sur le sol français et ça va permettre de renverser la situation, même si à la fin, au 11 novembre, on dit tous que militairement, les armées de la Triple Alliance et les armées de l'Entente sont quasiment à égalité.
Oui.
Et d'autres, plus tard, en septembre, les Ornais, les percherons de l'Orne, vont se poser dans le secteur de Champagne. Ils vont pas subir cette attaque. Vous avez aussi ceux qui habitent en Eure-et-Loir, notamment du 101e, à Dreux. Eux, pareil, ils se situent aussi dans les secteurs de Champagne et de l'Aisne, sans se battre, puisqu'en fait les combats n'auront pas lieu ici. Et en attendant, certains d'entre eux, puisqu'en fait l'état-major a pensé au recrutement à venir, ils n'ont pas dit que la guerre allait s'arrêter au 11 novembre, ils ont envisagé l'avenir, et bien les recrues s'entraînent à Mortagne.
On sait où ils se sont entraînés.
Tout à fait. On voit l'hippodrome et le champ de course où galopaient les percherons au cours du 19e siècle.
Oui.
Et bien sûr, moi j'ai connu aussi juste après, dans les années 90, grosso modo, eh bien, il faut imaginer que le champ de course a été transformé en caserne d'entraînement, caserne d'instruction. Et à Mortagne, nous savons maintenant qu'ils apprenaient à utiliser la mitrailleuse. On pense qu'ils s'entraînaient notamment dans le bois Bredeau, mais aussi en forêt, notamment du côté de la chapelle Mouligeon, en forêt de Reynaud-Val-Dieu.
Ah oui.
Les précisions exactes nous manquent, mais aujourd'hui, nous avons des informations qui arrivent grâce aux correspondances, grâce aux cartes postales, recherche qui a été en partie diffusée dans ce cahier Percheron.
Alors, les cartes postales, vous avez eu du mal à les trouver? Comment ça s'est passé?
Alors, quelques photos ont été prises par des photographes locaux à l'époque. Le plus dur, c'est de reconstituer, en fait, cette histoire, mais qui est facilitée par la correspondance entre ces jeunes gens et soit leur famille, leurs épouses, leurs mères ou parfois les fameuses marraines de guerre. Et on peut comprendre un tout petit peu, malgré la censure, qu'est-ce qu'ils vivaient. Honnêtement, sur Mortagne, puisqu'on revient maintenant sur l'échelle locale, sur Mortagne, ils disent bien, certes, ils s'entraînent, ils font beaucoup de marche à pied.
Mais il n'y a pas eu des hôpitaux de créer
tout
aussi.
Tout à fait, ça c'est encore un autre point, mais ils
s'entraînaient. Non, mais je veux dire que c'était quand même stratégique.
Voilà, et en fait, on a eu un camp qui a accueilli plus de 800 personnes durant l'année. À Mortagne. Il faut imaginer que la population a fortement augmenté, en fait.
Hein. Oui, j'imagine.
À côté de ça, si j'essaye de faire un peu l'horizon local, vous avez aussi, bien sûr, la caserne de Sully qui avait, ici à Nogent-le-Rotrou.
Oui. Oui, parce qu'il faut bien dire que Nogent-le-Rotrou et puis Mortagne-au-Perche, capitale du Perche, donc, si vous voulez, ont été très troublés.
Tout à fait. Puisqu'en plus, capitale, c'est honorable pour nous, mais en plus, sous-préfecture.
Oui.
Donc, un rôle administratif important, un rôle qui a une place importante sur les lignes de chemin de fer, en fait, des nœuds ferroviaires, pour Nogent et pour Mortagne.
Mais pour Mortagne, qui avait à ce moment-là...
Voilà. Et les deux villes étaient reliées par cette ligne, en fait, Mortagne-Condé-sur-Huisne, mais ça en arrive à Nogent, tout simplement. Oui. Et donc, on donnait...
Mais c'est très bien que vous disiez ça, parce que les gens ont du mal... aujourd'hui, à imaginer comme étaient ces deux villes, en fait.
On a une ville où, on va dire, pour Mortagne, c'est grosso modo 4000 habitants, c'est pas plus. Nogent, beaucoup plus. Et Gonaël Hamelin nous l'a évoqué lors du colloque. Une ville qui a utilisé notamment son tissu industriel. On pense notamment aux chapeaux tirards. Mais il ne faisait plus des chapeaux, il faisait en fait plutôt des bérets ou des képis.
Voilà. Parce que c'était le feutre, il pouvait transformer
en des tenues militaires. Oui. Vous avez aussi tout le tissu industriel du Teil-sur-Huisne, notamment le papier à Badib. Là, c'était pour les papiers cigarettes, entre autres. Oui. Également avec le bois localement pour faire des cartouchières, des boîtes à munitions ou autres. Et donc, si j'évoque le bois aussi, dans le Perche, nous avons eu des Canadiens, des bûcherons venant du Canada, qui ont été missionnés par l'armée britannique pour couper le bois, le scier, le transformer. Et ça, c'était dans les forêts de Bellem ou les forêts de Senonche, entre autres.
Oui, d'ailleurs, si on va au musée de Senonche, on voit encore, justement, puisque maintenant ça a été complètement refait,
tout à
et
fait.
Comment le bois a pu être indispensable à ce moment-là.
Tout à fait, à la fois pour les chariots, mais c'est auparavant, ça. 1916, c'était pour les fameuses tranchées, 1916-1917, je rappelle que l'offensive reprend en mars 1918, et voilà, donc et surtout ces soldats occupaient des prisonniers allemands. Donc, on a des traces aujourd'hui à la Perrière de la présence de prisonniers. Il y en a un, je crois, qui est décédé, mais sa tombe a été transférée à Alençon, mais il y a bien eu présence. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de blessés.
Ouais.
Pas forcément des percherons, mais plutôt ceux qui venaient en convalescence dans le Perche. Nogent, comme Mortagne, comme Bellem, ont eu énormément d'hôpitaux, soit des hôpitaux militaires, complémentaires, temporaires, mixte, c'est-à-dire et civil et militaire. Souvent, comme par ici, sur notre lieu de tournage, au sein de cette institution, en fait, l'Église a accueilli, en fait, à travers ses religieuses, beaucoup de blessés. Et je voudrais dire que c'est extrêmement important pour l'Église. On sait tous que 1905 a été désastreux.
Ah oui.
Voilà, séparation des Églises et de l'État, destruction. Or, à ce moment-là, le corps ecclésiastique va renouer un lien avec la population. Et l'abbé Rouffray, en 2014, l'avait bien démontré, notamment avec les fameux vitraux.
Oui, Peut-être situez-le géographiquement.
Voilà, alors c'est les fameux vitraux de Préau du Perche qui se situent à proximité de Nogent-le-Rotrou.
Oui, ça, je fais une parenthèse pour dire à nos auditeurs, allez visiter cette église. De Préau, parce que c'est un joyau, vraiment.
Tout à fait. Et en plus, on voit le monument essentiel, ce grand vitrail à la porte de la nef, c'est un monument aux morts, en fait.
Oui. C'est vrai qu'un monument aux morts comme ça, c'est quand même une très bonne idée.
Tout à fait. En plus, on a à la fois pour chaque personnage le nom, bien sûr, la date de décès et son portrait.
Oui.
C'est ça qui est un peu unique en France, plus les autres vitraux de l'église qui évoquent ce passé de la Première Guerre mondiale, puisque le prêtre de Préau est décédé sur le champ de bataille. Donc, en hommage, la population locale a décidé de constituer cet ensemble de préaux qui a été mis en avant il y a maintenant 4 ans grâce à Pascal Petcholi qui est le maire de la commune de Préau et Patrick Barr qui est écrivain et qui a fait des recherches sur ce sujet.
Et donc un livre magnifique.
Tout à fait, il s'appelle Mémoire de guerre, Mémoire de verre.
Exactement, c'est un très beau livre. Justement, on peut y voir toutes ces photos de ces morts.
Tout à fait.
Et c'est vraiment un monument aux morts qui est vraiment très original.
Tout à fait. Je pense que ça mérite le détour. Et on voit bien que d'autres églises ont la même chose. Alors, ce qui est important aussi à mes yeux, Christiane, c'est que dans le Perche, nous avons deux hommes, deux écrivains, qui ont décidé, qui étaient des citoyens engagés, qui ont participé au conflit. Je prends par exemple Émile Chartier, le grand philosophe Alain, qui a participé de 1914 à 1917, ou encore Roger Martin Dugard, qui lui a résidé au château du Tertre à Sérigny, qui était en fait dans la roulante, c'est lui qui a porté la cuisine en fait, tout simplement, alors qu'il pouvait avoir un grade de lieutenant ou autre, il a refusé de rester en fait simple sous-officier. Eh bien, cet armistice, cette fin de guerre, va être l'occasion pour eux de rédiger, à mes yeux, deux chefs-d'œuvre.
Oui, ça, effectivement, deux chefs-d'œuvre, puisque le premier, Alain,
va rédiger, par exemple, ton livre, c'est Mars ou la guerre jugée. Et là, il dénonce notamment ce massacre des meilleurs, c'est-à-dire tous ces hommes, alors quand c'est les meilleurs, c'est pas forcément les élites, mais des paysans, des artisans, des commerçants qui pouvaient œuvrer localement, mais qui ont disparu par le conflit. Ou encore, on le voit avec Roger Martin Dugard, avec les Thibault.
C'est une merveille. Voilà.
Et là, qui nous permet de nous faire une remise en question, en fait, de ce conflit. Qui le voulait, ce conflit? C'est vraiment la très bonne question. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que au lendemain de ce conflit, nous, dans le Perche, il faut reconstruire l'économie locale, que ce soit l'agriculture, relancer l'industrie, notamment verrières, par exemple du côté du Plessis-Dorin, relancer la machine, relancer l'industrie, la production, la vente. Mais on voit que, par exemple, dans la vente de percherons, et comme l'a démontré Jean-Léo Dugast, les percherons ont s'éporté durant l'entre-deux-guerres, notamment au Chili, en Argentine ou encore en Afrique du Sud.
Oui, il est vrai que cette période a été très faste pour les chevaux percherons.
Tout à fait.
Parce qu'ils étaient indispensables.
Tout à fait. Voilà, donc c'est ça qu'on a voulu montrer dans ce cahier Percheron, entre autres, et notamment, vous avez souligné l'implication des jeunes du collège des jeunes de 3e du collège de Bellem, qui nous ont fait un article fabuleux sur l'étude des monuments aux morts, voici maintenant un an, sur tout le secteur de Bellem.
Eh bien, un grand merci Jean-François Suzanne. Je crois que nos amis auditeurs auront très envie de relire ce bulletin des Amis du Perche. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Jean-François Suzanne.
Merci Christiane Blanc. Down and I return into some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Watching
I keep waiting, still anticipating life.